bonsoir. Vous écoutez bien Radio Canus, en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 15 décembre 2014. Et pour aborder l'actualité internationale, nationale et locale, Michel, Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex. On va attaquer tout de suite avec l'international. On a beaucoup de sujets, on ne les traitera pas tous. L'important, c'est de bien traiter les sujets dont on va parler. Allez, on attaque sur l'Afghanistan, Michel.
Oui, l'Afghanistan, juste pour rappeler que officiellement, enfin dans quelques jours, hein, il n'y aura plus de contingent étranger en Afghanistan. Officiellement, il restera toujours un peu moins de 10 000 soldats américains. Donc, un accord négocié entre le gouvernement afghan d'Ashraf Ghani et Obama pour le maintien donc de ce contingent américain, mais qui officiellement donc sera cantonné à une tâche de formation et de soutien aux forces armées afghanes. Du moins, c'est ce qu'on nous annonçait, hein, dans un premier temps. Et là, il y a quelques jours, on apprend que finalement, Obama a donné l'autorisation à ce contingent à aussi opérer directement sur les théâtres d'opération. Donc on voit comment les choses sont mouvantes, hein, comment les choses peuvent changer du tout au tout. Et d'autant plus que les États-Unis, qui comptaient beaucoup sur Ashraf Ghani, donc élu à la grande surprise générale président de l'Afghanistan, lui que la plupart des Afghans ne connaissaient pas, hein, puisqu'il a fait tout son cursus à l'étranger, au Liban et aux États-Unis. Il avait d'ailleurs la nationalité américaine, il a fallu qu'il reprenne la nationalité afghane, hein, pour se présenter. Et bien on apprend que Ashraf Ghani, du coup, compte pas trop sur les Américains donc pour se maintenir au pouvoir. Et il revient donc d'une visite à Pékin et il compte bien donc de plus en plus s'associer à la Chine en espérant que celle-ci fasse, d'un point de vue diplomatique, contrepoids au Pakistan, qui est son allié dans la région. Enfin, ce fameux triangle, hein, l'ennemi de mon ennemi et de mon ami. Donc, mon ennemi, c'est l'Inde. Donc, chinois, je m'assois sur les Pakistanais, donc je m'allie à eux. Et donc, en gros, voilà, le deal, ce serait d'autoriser donc les Chinois à entrer sur le marché afghan et notamment à pouvoir transiter. Ce qui intéresse les Chinois, donc en gros, c'est la construction d'un gazoduc qui partirait du Turkménistan et qui irait jusqu'en Chine en traversant le territoire afghan. Et en contrepartie, donc, on demanderait donc aux Chinois de amener donc le Pakistan un peu plus de raison, puisque en gros les talibans, hein, qui contestent le gouvernement afghan d'Ashraf Ghani ont leur base arrière au Pakistan.
Oui, enfin, ils contestent, ils font même plus que ça ces jours. Apparemment, ils reprennent du poil de la bête, peut-être à l'annonce du départ américain. En tous les cas, ils se manifestent par des attentats et des actions armées un peu partout, au point qu'on se demande s'il n'y a pas encore quelque chose qui va basculer à nouveau avec eux, non ?
C'est tout le souci. Alors, on a l'impression, effectivement, suite à l'attentat dans le centre culturel français, que les choses s'envenimentent. Mais de fait, quand on regarde de près les chiffres, hein, l'insécurité est quasi chronique. Hein. On dénombre plus de 1500 morts civiles ces 6 derniers mois en Afghanistan et pas loin de 7000, hein, donc soldats et policiers tués ou blessés, hein, sur l'année 2014. C'est dire que bon, de fait, on est loin, très loin d'une société apaisée. Et effectivement, officiellement, donc le contingent étranger s'en va. Les derniers Anglais viennent de partir, enfin soldats britanniques viennent de partir, mais les Américains, comme on l'a dit, restent. Alors de là à ce que les talibans se sentent à même de prendre le pouvoir, donc de s'attaquer à Kaboul, bon, on peut en douter dans un premier temps, mais de toute évidence, déjà, ce qu'on remarque sur place, c'est que la plupart des dignitaires, si je veux dire les nouveaux riches, hein, qui ont fait fortune notamment, avec l'aide internationale qui est arrivée avec les troupes occidentales depuis décembre 2001, ont tendance à rapatrier leur avoir dans les pays du Golfe, et notamment aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est qu'eux, ils sentent effectivement que la situation est en train de se détériorer. Va-t-on vers un scénario à l'irakienne, donc une séparation du pays? On peut le penser, mais dans le même temps, l'Afghanistan, ça n'a jamais été un État centralisé, donc on ne peut pas vraiment faire le parallèle. Hein. L'Irak a été un État fort, notamment sous Saddam Hussein, dans le sens fort, un État centralisé fort, ça n'a jamais été le cas de l'Afghanistan. Mais on peut effectivement douter aujourd'hui de la pertinence de la présence des troupes américaines sur place. Alors, de toute évidence, la guerre est perdue, donc dans le sens où le but de cette guerre-là, c'était détruire les talibans, Al-Qaïda. Alors si effectivement la mort de Saddam Hussein, c'est une victoire en tant que telle pour eux, toujours est-il que le mouvement taliban islamiste est toujours présent et que la démocratie et la démocratisation de la société afghane, on en est très très loin. Donc les buts politiques n'ont pas été atteints d'un point de vue militaire, même au plus fort du contingent donc du Surge où il y avait 140 000 hommes donc de la coalition internationale, on n'a pas réussi donc à réduire donc la résistance ou le terrorisme comme on veut des talibans. Et aujourd'hui donc on voit bien que c'est une opération juste pour ne pas laisser donc le navire donc et son capitaine sombrer du jour au lendemain. Donc c'est une forme de, on le sent bien, on est dans une forme de com, on essaie d'accompagner tant bien que mal ce gouvernement, mais on le voit bien, ce gouvernement n'est pas prêt. Les troupes, même si elles sont nombreuses, officiellement plus de 300 000 soldats et policiers afghans, mais de toute évidence pas préparés, puisque il y a une évaluation des capacités des forces de sécurité afghanes qui a été faite cet été par les Américains et qui est étonnamment restée classée à secret défense. C'est-à-dire que on peut fortement douter sur la capacité des troupes afghanes donc à défendre leurs concitoyens et défendre le pays et l'institution.
T'as dit Saddam Hussein tout à l'heure, je pense que tu pensais Ben Laden, non ?
Ah, je pensais Ben Laden.
Robert, tu, sur ce sujet ou sur un autre, tu veux...
Se rappeler que, certes, les talibans sont sans doute les forces d'opposition les plus structurées, comme tu l'as dit, structurées en plus au Pakistan. Mais il reste ce qu'on a appelé à une époque les seigneurs de la guerre et qui sont effectivement à la fois liés à des communautés différentes de celles des talibans. Alors actuellement, ils soutiennent les processus tels qu'ils ont été mis en place par les Occidentaux et notamment les Américains, mais on ne sait pas si effectivement la poursuite de la dégénérescence en tant qu'État, comme tu l'as dit, il n'y a pas de tradition centraliste en Afghanistan, mais la dégénérescence de la puissance d'un État va conduire au retour des seigneurs de la guerre. Peut-être d'ailleurs, ils ont vieilli, ne sont peut-être plus d'ailleurs opérationnels.
Voilà, autre sujet, tu veux peut-être tirer une conclusion sur Lima, qui s'est terminée finalement hier matin, ce dimanche, avec un jour de retard. Bon, beaucoup, comme on l'avait un peu annoncé, comme on l'avait dit, et comme tout le monde le prévoyait, aucune résolution contraignante, aucun engagement ferme, chiffré ni daté. Dans le meilleur des cas, on dit que d'ici décembre 2000, dans un an, on aura avancé et qu'on pourra présenter déjà au mois de juin, dans 6 mois, des projets de contribution pour les négociations de décembre 2015. Autrement dit, c'est toujours comme ça avec le capitalisme et les profiteurs. Chaque jour passé est un jour de gagné. Ben là, c'est même mieux que des jours, c'est des années, quoi. Et avec toujours les mêmes, faut-il les rappeler, je pense pas, c'est toujours les mêmes objections, des pays riches qui veulent pas se pénaliser entre guillemets par des efforts écologiques, et les pays moins riches qui demandent que les riches les soutiennent pour ne pas engendrer des économies polluantes, les autres ne se précipitant absolument pas pour les soutenir, en particulier financièrement. Voilà, Robert, autre sujet si...
Autre sujet, peut-être la Palestine, qui est un tournant, on le dit, hein, des tournants, là, il y en a eu pas mal depuis 50 ans, mais néanmoins, l'effet boule de neige des reconnaissances par les États européens d'un État palestinien différent et viable, dans la durée comme dans la structure, va son chemin, et possible qu'avant début de l'année prochaine, on assiste enfin à un véritable travail repris en main par l'ONU pour que soit définitivement acté cet État palestinien. Mais effectivement, ça reste flou et c'est lié aux enjeux locaux, et notamment y compris ce qui se passe en Syrie et à côté en Irak, où les Israéliens, semble-t-il, ont envie d'intervenir, ne serait-ce que pour pratiquer ce qu'ils aiment bien, parce que ça permet de masquer les vrais problèmes, de pratiquer la fuite en avant. Mais peut-être vous avez d'autres informations sur Israël-Palestine.
Oui, enfin, on l'a vu un peu, toutes ces guerres qui ont été menées par procuration aussi pour les intérêts d'Israël, hein, affaiblir donc les ennemis proches. On s'est défait de l'Irak fort militairement de Saddam Hussein. On a fait imploser la Syrie de la dynastie des Al-Assad. Le Liban, n'en parlons pas, l'histoire a été réglée il y a déjà près de 30 ans. L'Égypte est rentrée dans le rang, récipiendaire de l'aide militaire des États-Unis, donc elle a reconnu avec la Jordanie Israël, donc ces deux pays donc, sont satellites aujourd'hui des Occidentaux, des États-Unis. Il reste l'Iran, et cette semaine... une fois de plus, donc, la diplomatie israélienne a fait savoir que le programme nucléaire iranien lui était totalement insupportable, et donc qu'elle n'avait pas du tout l'intention de le voir mener à son terme. Et si la communauté internationale, entre guillemets, pour ne pas dire les Occidentaux, n'intervenait pas, tôt ou tard, elle s'en chargerait. Donc on voit bien aussi dans cette politique étrangère des Israéliens l'incapacité de concevoir donc un avenir apaisé, le besoin donc quasi viscéral donc d'avoir un ennemi, même si les ennemis proches, comme on vient de le dire, sont de moins en moins nombreux ou de moins en moins dangereux pour sa sécurité. Donc on voit donc cette stratégie de la tension donc qui est perpétuée par les Israéliens, mais aussi avec le soutien inconditionnel de la diplomatie des États-Unis.
Est-ce qu'on a dit que la Palestine aujourd'hui, l'OLP avait présenté au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution visant à la fin de l'occupation israélienne en Palestine dans 2 ans, quoi. Comme par hasard, pas tout à fait, le jour où Netanyahou rencontrait le secrétaire américain à Rome, quoi. Oui. Bon, ça a peu de chances d'aboutir, mais enfin, la démarche diplomatiquement est là. C'est longtemps qu'on n'a pas parlé de l'Ukraine et de ce qui s'y passe. Alors, le cessez-le-feu qui a été déclaré jeudi, cette fois-ci, a l'air de tenir, quoi. Est-ce que les séparatistes sont à bout de souffle face au blocus ? Est-ce que Poutine lui-même baisse un peu la garde devant les mesures qui le contraignent beaucoup au niveau international. Et on peut se poser toutes ces questions, tout en menaçant Poutine d'ailleurs de sanctions vis-à-vis des Occidentaux face aux nouvelles sanctions qu'on veut lui imposer. Et en particulier, il proteste contre les livraisons d'armes à Kiev par les Occidentaux.
Alors, livraison d'armes ou projet de livraison d'armes, notamment des États-Unis. Donc là, que l'Allemagne livre des armes, bon, déjà, c'est une forme de casus belli, mais que les États-Unis directement donc, financent et armes, et on sait très bien comment les États-Unis financent, hein, c'est-à-dire ça commence en donnant des armes, mais des armes américaines, et petit à petit, donc, il faut former aussi cette nouvelle armée ukrainienne à utiliser ces armes-là. Et donc là, c'est un processus qui est assez lourd. La diplomatie russe a fait savoir que d'aucune manière elle ne tolérerait que Kiev soit donc armé et donc financé pour son armement par les États-Unis, et que ce serait un casus belli, et que elle se prendrait le droit donc d'intervenir directement en Novorussie, donc dans les républiques de Donetsk et de Lugansk, si était le cas. Toujours est-il que au jour d'aujourd'hui, donc les Russes ont d'autres soucis d'ordre financier. Le rouble s'écroule, donc il a perdu plus de 30% ces dernières semaines. Donc une attaque spéculative, mais la spéculation n'explique pas tout. Il y a aussi effectivement les sanctions qui portent partiellement leurs fruits, mais surtout la baisse donc du cours du baril, qui est passé de 114 dollars donc encore début septembre à un peu plus de 60 dollars aujourd'hui. Et il est clair qu'à ce cours-là, si le cours de 60 dollars se maintient, et les Russes verront donc leur croissance baisser de manière très très significative, à tel point que les quelques comment dirais-je apparatchiks donc s'en inquiètent, et donc sont en train de en interne ça bouge énormément au gouvernement russe, et on essaye de voir comment on peut modifier la donne sans perdre la face. Alors, tu l'as dit effectivement sur le cessez-le-feu ukrainien, alors aussi l'hiver hein, qui est là pour expliquer que la ligne de front est gelée, c'est-à-dire que c'est pas simple hein, de mener des actions par le temps qu'il fait actuellement en Ukraine. Mais on va voir dans les mois qui vont venir si les Russes et l'économie russe est à même de supporter cet effort de guerre.
Robert, as-tu un autre sujet là-dessus ?
Toute la question aussi qu'on a évoquée déjà toutes les semaines, à savoir la réorganisation des projets pipeline des Russes, et on a compris que ça bougeait beaucoup de ce côté-là. Et est-ce que c'est essentiellement pour des raisons stratégiques, ou c'est aussi les problèmes financiers qui se posent à leur propos ? On ne sait pas.
Alors, on a vu l'abandon du projet South Stream, donc le projet russe, mais dans lequel aussi EDF était partie prenante avec Eni, avec l'italien Eni. Mais dans le même temps, Moscou vient de signer avec Ankara donc un accord donc pour livraison de, je vais pas dire de bêtises, mais je pense à hauteur de 12 ou 13 milliards de dollars donc de gaz. Hein. Sans compter donc sur le long terme l'accord d'association qui a été signé entre Pékin et Moscou sur un accord de plus de 300 milliards, il me semble, hein, sur les 10 ou 15 années à venir, mais avec des pour l'instant hein, des infrastructures qui n'existent pas, donc qui sont à faire. Donc pour l'instant, la réalité de l'économie russe, c'est qu'elle n'est pas à même d'engendrer du cash directement. Elle est plus sur la projection donc de rentrée qui devrait arriver, notamment avec l'ouverture sur le marché asiatique. Mais pour l'instant, le problème qui se pose pour eux, avant tout, c'est la chute de leur monnaie et les emprunts qui vont exploser puisque indexés donc sur le dollar ou sur l'euro.
Voilà, autre sujet, on en a beaucoup, mais on peut dire quelques mots des ennuis de la CPI. Enfin, ce n'est pas vraiment des ennuis, c'est une médiatisation d'un problème qui devient insupportable au procureur, à la procureure de la Cour pénale internationale, qui jette l'éponge quand il s'agit de mener des inculpations pour crimes contre l'humanité vis-à-vis de chefs d'État, à propos d'El-Béchir, de Soudanais, donc, pour lequel il y a eu 28 rapports qui le mettaient en cause sans aucune suite donnée par le Conseil de sécurité. Et ceci après que Kenyatta, de la même manière, n'ait pas eu moyen de mener une procédure contre lui. Donc les gens de la CPI trouvent que leur capacité d'agir dans les missions pour lesquelles on les a mis en place sont bloquées quand il s'agit de trop hauts personnages et ils cherchent à le faire savoir au monde entier, espérant que ça engendrera une réaction.
Ils peuvent se diversifier parce qu'il suffit qu'ils s'emparent du dossier de la torture aux États-Unis tel qu'il vient de sortir et qui met en cause de Bush, Cheney et d'autres, et qui continue d'ailleurs, Cheney qui persiste et signe que la torture, s'il était au pouvoir, il la pratiquerait encore. Alors qu'attend la CPI? Alors on nous dira, mais les États-Unis ne sont pas signataires de la création de la CPI. N'empêche que si la CPI ne veut pas s'emparer d'un problème comme ça, effectivement, se contenter d'essayer de choper ici ou là en Afrique des dictateurs noirs, je veux dire, on est toujours dans un système deux poids deux mesures.
Voilà. Tu parlais des USA, on va y rester un petit peu plus pour parler de cette marche équivalente à celle des droits civiques. Peut-être pas tout à fait parce qu'elle n'a pas fait une unanimité complète dans le pays, mais contre les exactions policières dont marche à Washington de dizaines de milliers de personnes qui venaient protester. Il faut dire qu'il y a eu à répétition en l'espace d'un mois plusieurs meurtres réalisés par la police. Ces gens-là ne connaissent que les revolvers. Il y a d'autres moyens de venir à bout de manifestants sans être obligé de tirer à balles réelles à la première altercation, quoi. Mais aux États-Unis, c'est vrai que c'est le pays des armes, tout le monde en a, et les flics, encore plus que les autres, se sentent en droit d'en user et abuser. Et comme c'est toujours contre la minorité noire, quasiment, minorité, pas toujours minorité d'ailleurs, mais la population noire, ceux-ci trouvent que la mesure est pleine et ont décidé de porter leurs revendications dans la rue. Alors Obama, on l'entend pas trop, on comprend que quoi qu'il en pense, il peut pas dire grand-chose, ou du moins il veut pas s'engager à prendre le risque de prendre fait et cause. Donc il essaie de se minimiser ses interventions, quoi. Autre sujet?
On peut parler peut-être de l'Europe, puisqu'à la fin de la semaine, le Conseil européen se réunit. Le Conseil européen, c'est cette instance où tous les chefs d'État, les 28, se retrouvent pour faire le point de la situation avec leur nouveau président, puisque c'est une présidence tournante, c'est le Polonais. Polonais Donald Tusk, qui ancien chef du gouvernement, qui est maintenant président du Conseil européen. Et donc, qui dit polonais dit alignement total sur la politique américaine, pro-américaine, libre-échange, etc. Mais les chefs d'État, à la fin de la semaine, réunis à Bruxelles, je crois qu'ils devront peut-être s'équiper de beaucoup de pompes à eau pour éteindre les incendies qui un peu partout sont allumés en Europe et qui sont de plus en plus forts avec des grèves massives comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est en Belgique. Samedi, c'était en Italie. Alors, on va dire en Grèce, c'est presque tous les jours. Grèce qui est presque en état insurrectionnel, même si ça ne se traduit pas par des violences et des occupations massives des lieux de l'État. Avec en Grèce une situation favorable pour le parti anti-autoritaire, plutôt austérité, qui s'appelle Syriza, qui est en tête des sondages. En Espagne, on a aussi régulièrement des poussées de fièvre. Et puis la montée en puissance d'un parti de type nouveau, assez original, qui s'appelle Podemos. Portugal également. Alors on va dire, mais c'est l'Europe du Sud qui bouge. L'Europe du Nord ne bouge pas beaucoup, certes, peut-être. Mais n'empêche que si on dit que l'Europe c'est un tout... cette Europe du Sud secoue le cocotier, il est pour dire basta l'austérité, qu'on en sorte. Alors est-ce que Juncker, le luxembourgeois, impliqué dans, non pas dans la fraude, puisqu'il avait le droit légal de réduire les impôts des multinationales, mais Juncker, quand même, qui dit, j'amène 300 milliards pour l'investissement. Alors, réparti entre 28, chaque pays a présenté des projets, mais dans beaucoup des cas, c'est des projets hâtifs, des projets qui prétendent faire effectivement repartir l'emploi et finalement la croissance, mais la croissance traditionnelle. Souvent, les projets qui sont avancés, ça contribue effectivement au productivisme. Et on dirait, en France, en pensant au mouvement aussi bien à Notre-Dame-des-Landes qu'à Sirvance, on pourrait dire que... Au mieux, ils sont inutiles. Au pire, souvent, c'est des projets négatifs, des projets néfastes. Oui. Tout ça à la fin de la semaine. Ils ont du boulot, mais naturellement, il ne faut pas, hélas, attendre beaucoup de cette réunion des chefs d'État. Par contre, il faut sans doute être dans cet ensemble de mouvements qui sont pays par pays. On va dire que le syndicat, la Confédération européenne des syndicats, bon, elle appuie tout ça, mais on ne peut pas dire qu'elle joue un rôle moteur là-dedans. Et c'est peut-être bien dommage.
À propos de la Grèce, un mot de Nikos Romanos, ce militant qui a fait 31 jours de grève de la faim pour obtenir le droit de poursuivre ses études. Donc, il semble que le Parlement a pris une disposition. On peut dire qu'il a gagné. Il va pouvoir sortir de prison avec un bracelet électronique pour ses activités universitaires et autres. Voilà, alors d'autres sujets, je ne sais pas, on va bientôt arrêter cette rubrique internationale. Je vous balance en vrac quelques noms, peut-être il y en a qui vous feront réagir. Syrie, Japon, Tunisie, Australie, là c'est ce soir, avec cette prise d'otage par un islamiste un petit peu particulier, un petit peu déjanté, mais qui a quand même fait un mort, lui, plus un autre mort, je ne sais pas si c'est un militaire ou un otage. Il y a 5 otages blessés, enfin ça, il y a eu un assaut de données après une quinzaine d'heures cet après-midi, et on est en train de faire le bilan de cette affaire. Donc je disais Tunisie, Turquie, non, ça vous inspire pas plus que ça, tous ces sujets divers et variés, Libye aussi. Tu ploufes sur quoi?
je plouffe, si tu veux, sur la Libye, mais on pourrait ploufer sur tout. La déliquescence de la Libye continue, semaine après semaine. Et là, on est là aussi pas très loin donc, de la partition du pays. Donc, on voit, donc, ça fait maintenant 3 ans, hein, bientôt les révolutions arabes. Si on peut faire un bilan, l'Algérie a été épargnée, un régime fort, le Maroc de Mohamed VI aussi, la Libye de Kadhafi est partie en déconfiture, on nous promettait monts et merveilles, surtout un certain Bernard Lévy, Et on voit qu'on est plus proche d'une partition donc que d'un pays qui prospère, hein, qui pourrait l'être après tout, hein, 5 millions d'habitants, des richesses pétrolifères conséquentes. Mais on est plus proche d'une partition, et puis partition dans la partition, hein, c'est-à-dire on voit bien que dans le sud, dans le Fezzan, les frontières sont pas très bien tenues entre l'Algérie, entre le Soudan et la Libye, et que la minorité noire, si la Libye avait donc en venir donc à être partitionnée, si j'ose dire, réclamerait aussi son dû. On voit que le voisin égyptien qui s'immisce dans les affaires libyennes avec l'accord des Occidentaux, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Et toutes les chancelleries occidentales acquiescent, hein, puisque Al-Sisi est reçu en grande pompe à Paris. Mais c'est une dictature, c'est des arrestations arbitraires par milliers, c'est, en parlant de torture, la torture systématique, mais on ferme les yeux, et on continue donc à faire du business, puisqu'il était question donc dans ces dernières semaines donc que nos multinationales, et notamment Vinci, donc, prolongent donc le métro Cairot. On le voit, la Jordanie qui essaye de s'en tirer vaille que vaille. Ne parlons pas de la Syrie, donc qui en finit pas donc de dépérir. L'Irak, la verra-t-on encore un jour en tant qu'État unifié? On peut en douter. La Libye, on n'est pas loin donc d'une guerre civile bis. Et on peut continuer comme ça, c'est-à-dire on peut aussi se faire du souci à plus ou moins long terme pour les monarchies du Golfe, et à commencer par la plus grande, l'Arabie Saoudite. En tout cas, on est dans une forme de dynamique de démantèlement, et pas de renforcement donc ni de l'État ni des sociétés civiles, s'il en existe dans ces pays, et tout ça quelque part aussi avec nous, notre responsabilité à nous, chancellerie occidentale, qui sommes pour beaucoup aussi dans ces révolutions complètement faillies.
Voilà, bien, courte pause musicale avec la musique de Gérard Maimon. Je terminerai par une brève. Cuba sera présent au sommet des Amériques en 2015, ce qui jusque-là ne s'était jamais fait à cause d'un barrage des Américains qui évolue sur la question. S'appelle Wiki, c'est un morceau, composition et interprétation de Gérard Maimon. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du 15 décembre 2014. Et nous arrivons à la rubrique nationale. Tiens, on va ouvrir sur une bonne nouvelle, si on peut dire. C'est les 15 ans de la loi Aubry, donc passage de 39 heures à 35 heures. Il y a eu une deuxième loi dans un deuxième temps qui l'a élargie à toutes les entreprises. Mais enfin, bon, 15 ans de cette loi qui met la droite et les patrons en rage depuis le premier jour, on va dire. Et leur rage ne s'est pas calmée un instant, elle continue. Ceci dit, même quand la droite a été au pouvoir, ils ne l'ont pas vraiment abrogé, quoi. Ils n'osent pas trop. Il faut dire que les salariés, eux, ils tiennent beaucoup et ils en profitent. Ils apprécient cet espace de vie en plus qui leur est donné. Alors la loi n'a pas engendré le nombre d'emplois qu'on avait annoncé qu'elle créerait. On arrive à 350 000. Voilà. Alors la droite trouve qu'elle a cassé la valeur travail. Je ne sais pas bien où elle a vu ça, mais enfin, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de répéter partout.
Ceux qui cassent le travail en ne le payant pas, hein, en remettant même en cause donc le SMIC, et on ose parler de casser la valeur travail.
Voilà pour ce sujet. À l'heure qu'il est, mais il a peut-être fini son discours. Hollande est au musée de l'immigration. C'est pas l'intitulé exact, mais c'est quelque chose comme ça. J'ai oublié le terme exact. Ce musée qui a été créé en 2007, et, enfin même avant, et qui finalement est resté un peu lettre morte parce que, entre-temps, il y a eu la période Sarkozy. Il n'était pas question de valoriser l'immigration. Là, Hollande se mouille. Bon, sur les sujets qui lui coûtent rien, il est assez fort, mais récurrent pour se mouiller. Il s'agit donc de faire un discours. C'est Stora qui est le directeur de ce musée depuis quelque temps, et depuis le temps que le musée était là, il fallait bien un jour lui donner une forme avec quelqu'un qui soit à la hauteur de la situation. Donc il s'agit de prendre la mesure du rôle et des bienfaits et des apports de l'immigration en France depuis deux ou trois siècles, en tous les cas au moins un siècle, et de valoriser ça et de le proposer à la réflexion et à la connaissance des populations. Alors de son discours, on attend un grand discours moral et politique. On n'attend pas de mesures parce que Hollande, s'il est fort pour les discours, il est moins fort pour les actes et pour tenir ses promesses électorales. Le vote des étrangers aux élections locales, il en est toujours et il n'en sera pas question pendant sa mandature. Et il y a comme ça quelques autres mesures qu'il n'applique pas, quoi. Robert.
Oui, pour préciser, c'est le musée de l'histoire, hein, voilà. L'histoire de l'immigration, voilà, c'est pas le musée de l'immigration. On se souvient que c'est Sarkozy qui avait fait un ministère, lui, de l'immigration, je crois bien, à un moment, pendant son occupation du pouvoir. Oui, bon, sur ce sujet, effectivement, on peut toujours penser prendre le beau rôle, mais quand on voit comment les bavures se multiplient avec ces immigrés clandestins, ces sans-papiers qui arrivent et qu'on réexpédie, qui, même quand ils sont à l'intérieur de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de rester normalement, bon, et soit les Roms et d'autres, et une histoire assez tragique, par exemple, bon, ça n'a pas fait de mort, mais à Digne, ici, dans les Alpes de Haute-Provence, on est allé cueillir à 5 heures du matin une famille entière, dont des Arméniens, il y a 5 ans qu'ils sont en France. Ça tout se passait à peu près normalement, certes, c'est toujours petit boulot, rien d'illégal, et puis des enfants à l'école, et puis voilà, une escouade de flics surarmés s'est emparée d'eux et les a mis dans un avion et direction l'Arménie. Voilà, c'est alors que ils avaient bénéficié de sursis et que effectivement, bon, l'immigration, alors c'est plusieurs sujets. L'immigration, c'est à la fois l'immigration économique, qui est la plus nombreuse, certes, mais ça reste aussi l'immigration, qui est l'exil. L'exil qui est un autre statut, qui est à la fois beaucoup plus contraignant, à la fois pour un État, que pour la personne qui demande le droit d'asile. Et il en existe beaucoup, et On sait que actuellement les pays européens refusent de délivrer ce séjour au nom du droit d'exil de l'exil, alors que les endroits où les guerres se multiplient et que ce soit par rapport au passé, comme bon, là on évoquait le cas de cette famille arménienne, mais que ce soit aussi bon, des Tchétchènes, pour parler que de l'Europe, et encore des situations très 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 difficiles, mais il n'y a pas que ça. Et la plupart des pays d'Afrique, avec ce qu'on a décrit là juste avant, encore ce soir dans notre journal, eh bien, montre que des exilés, il pourrait y en avoir des dizaines, des centaines de milliers.
Un autre sujet, ben, Pôle emploi. Il semble que Bernard Thibault, en fouillant un peu là dans les structures où il est actuellement, a découvert un coup bas qui se préparait en douce, un projet de loi en procédure accélérée visant à donner, enfin je fais un petit peu court, mais à donner à des agences d'emploi privées les prérogatives de Pôle emploi, c'est-à-dire qu'on privatiserait tout, sauf finalement le flicage peut-être, c'est-à-dire le recensement des chômeurs et leur mise en place dans le système. Après, on sous-traiterait à des boîtes privées, comme il y a des boîtes privées de n'importe quoi, de nettoyage, de banque, et bien des boîtes qui seraient chargées de rechercher des emplois pour les chômeurs. Il est évident que c'était une remise en cause du service public de l'emploi. C'est aussi une décision qui était en train de se prendre en douce. Alors, elle est bloquée hein, pour le moment, peut-être parce que, justement, il y a des gens qui se sont rendus compte du coup fourré, mais c'est pas dit que ça reviendra pas, ce genre de truc. En général, on essaye une fois, deux fois, trois fois, puis on y arrive, quoi. Et c'est aussi, donc, une manière de faire qui n'a pas été négociée avec tous les partenaires sociaux, évidemment, alors que l'assurance chômage, par exemple, fait l'objet d'une négociation permanente entre le patronat et les salariés. Les cotisations chômage, ce sont le travail des salariés qui, même s'il est payé par le patron, comme le reste du salaire, c'est quand même des choses qui appartiennent aux salariés. Et il s'agirait de remettre en cause un service public dans ce domaine-là. Voilà, d'autres sujets, les plumées du 93, manifestation d'élus du 9-3, qui ont fait les comptes de ce que l'État ne veut plus leur verser comme dotation de fonctionnement, hein, puisque tous les jours ou presque, on trouve de nouvelles restrictions à faire dans les dotations. Ça veut dire pour ces communes, mais c'est pas vrai que dans le 9-3, hein, c'est vrai partout. Soit il faut réduire des actions sociales, soit il faut réduire les investissements, soit il faut augmenter les impôts sur des gens qui ont des revenus qui stagnent gravement. Donc c'est la quadrature du cercle et les élus ont tenu à protester contre ces décisions étatiques prises là aussi, sans contestation, quoi. Vous dire un mot de Le Pont qui n'a toujours pas démissionné, qui fait la roue et qui attend que ses camarades syndiqués s'organisent un peu contre lui. On ne comprend pas pourquoi cette résistance face à un scandale qui est quand même avéré. Alors il y a le service public de la CGT qui l'a lâché, ça représente 80 000 adhérents, mais si on suit les procédures, il a encore un ou deux mois devant lui avant d'être éventuellement destitué par les structures de la CGT, sachant qu'il ne voit absolument pas pourquoi il démissionnerait. Drôle de syndiqué, celui-là.
Oui, enfin, je pense qu'il va démissionner à terme, mais le souci aussi pour la CGT, pour Syndicat, je pense que on va le démissionner selon l'agenda interne à la CGT, mais pas selon l'agenda médiatique, parce que il est clair que les médias avaient décidé qu'il était coupable avant l'heure, avant la première réunion, et avaient déjà anticipé donc sur sa démission. Et je pense qu'en interne, on joue beaucoup là-dessus et il va finir donc par partir. Mais C'est les militants, c'est en interne que ça se décidera. Ça prendra un peu plus de temps que le temps médiatique.
Il y a déjà un fusible qui a sauté. Hein. On a viré le trésorier de la CGT dans cette affaire.
Est-ce que, je ne sais pas si Michel a des informations sur les cheminots CGT qui travaillent souvent avec Sudrail. Donc les contacts sont permanents, d'autant qu'il y a souvent des conflits en cours. Est-ce que on perçoit quelque chose de très difficile à vivre chez les cheminots CGT ?
Chez les cheminots tout court, et notamment par ceux qui se sentent concernés et qui sont syndiqués, que ce soit à la CGT ou au Sud, hein, pour ne nommer que ces deux syndicats qui sont les plus actifs, si j'ose dire, dans la lutte syndicale au sein de la SNCF. On est dans un grand inconnu, à savoir, on en parlait, mais bon, il faudra plus de temps pour en parler dans les détails, mais une forme de démoralisation dans le sens où on voit bien que la direction compte énormément sur tout ce contingent donc d'anciens qui vont partir d'ici à 2017 à la retraite. Et pour changer du tout au tout donc le statut même des cheminots. Hein. On parlait de filialisation, c'est quasiment maintenant la règle dans tous les nouveaux produits hein, que nous pond la SNCF, IDTGV, Ouigo et j'en passe, et on va de plus en plus vers ce type de filialisation qui ne dit pas son nom. Voilà. Et que, bien entendu, on conteste hein, très vigoureusement.
Une information lyonnaise, là, ce mercredi, hein, dans deux jours, rassemblement du collectif Jamais sans toi, TOIT, devant l'immeuble rue Cazenave, qui a fait l'objet d'une expulsion le mois dernier. Quoi. Et à savoir aussi qu'il existe rassemblement donc, de protestation. Il existe un campement devant la préfecture de Lyon, là, dans le petit parc-jardin qui est devant, pour protester contre le fait que 194 enfants qui sont scolarisés à Lyon dans différentes écoles ont leurs familles qui sont sans logement et qui, au jour le jour, logent en cette période hivernale, même si le froid n'est pas encore le plus terrible, mais ce n'est pas des conditions de vie décentes du tout, de toute manière. Donc, qui ne sont pas logés, alors qu'on nous pond des belles lois où tout le monde doit, le droit au logement opposable, hein, doit avoir un logement. Robert, avais-tu d'autres sujets ?
Oui, je me demandais si le capitalisme va-t-il s'euthanasier ou faudra-t-il qu'on l'euthanasie ? Vous voyez, l'allusion je fais à ce débat qui est relancé sur comment terminer dans la dignité sa vie sans souffrance et sans que l'on se trouve suspecté d'avoir hâté la fin d'un proche ou de quelqu'un. Bon. Je ne sais pas, bon, pas très loin peut-être dans la discussion là-dessus, mais évoquer le sujet, c'est quand même un sujet important comme en France, tous ces sujets de société prennent tout de suite de l'ampleur et souvent un ton, et puis qui regroupe, pas toujours, loin de là, les clivages politiques, mais les sujets dont la politique s'empare trop facilement.
Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il y a un projet de loi qui, au-delà de la loi Leonetti, donc qui proposait d'une fin de vie pour des personnes qui auraient manifesté ce souhait avant d'être dans un état où ils ne peuvent plus l'exprimer, de mise en sédation profonde, ce qu'ils appellent, avec une mort survenant dans les 3 ou 4 jours. Alors cette mesure peut paraître intéressante, alors certains trouvent qu'elle va trop loin, évidemment, ils assimilent ça à de l'euthanasie, Et puis d'autres qui militent pour le suicide assisté trouvent que cette loi est encore trop restrictive. Suicide assisté, on le sait, qui existe dans des pays comme la Suisse, où après certaines prises de garantie vis-à-vis du malade et par des médecins, on organise un suicide assisté. Donc voilà, on en est là avec un projet qui va peut-être entrer en débat sans vote au début janvier 2015 au Parlement et qui, de toute façon, semble-t-il, ne satisfera pas les positions les plus radicales d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ah, je vous dirais bien un petit truc marrant, si on peut dire, si c'était pas... Le prix du gaz et du pétrole, entre 2008 et 2010, le gaz, ça concerne quand même 7 millions de foyers en France hein, qui se chauffent. Alors, le pétrole baisse, le gaz ne baisse pas. Vous devez vous demander, mais pourquoi donc? Alors, entre 2008 et 2010, on a aligné le prix du pétrole et du gaz. Ça a permis à Suez d'augmenter le tarif du gaz à un moment où le pétrole augmentait, sans avoir à répercuter à ce moment-là la baisse des cours du gaz au niveau mondial qui était existante, quoi. Donc, bénéfice. Et puis, ces jours derniers, eh bien, on a un tarif réglementé, là, qui va augmenter de 1,8% au mois de 1er janvier pour le gaz, quoi. Et normalement, si on avait suivi les règles mises en place par l'État, elle devait baisser de 0,6%. Mais, entre-temps, le gouvernement a augmenté la taxe intérieure, en clair, les impôts qu'il met là-dessus, par deux. Donc du coup, le gaz va augmenter. C'est quand même curieux aussi parce que le pétrole, comme on l'a dit tout à l'heure, a baissé de 40%. Il faut dire qu'en 2013, Bateau a eu la très bonne idée de désolidariser le prix du gaz et du pétrole à un moment où, paraît-il, le pétrole augmentait trop. Du coup, on a dit les deux prix n'ont plus rien à voir. Et voilà, aujourd'hui, le pétrole a baissé de 40% et le gaz, eh ben, merveilleusement, il reste à son plus haut niveau. Et qui paye? Eh bien, le petit contribuable, bien sûr, et le petit consommateur. D'autres infos? Vous êtes un peu à court, je vois. On a traité beaucoup de choses. On peut finir en musique, ce Canu Info, en donnant, d'abord en invitant nos auditeurs à ne pas quitter l'antenne, et puis en leur donnant rendez-vous pour le prochain Canu Info, ben c'est demain. Pour ce qui est de celui du lundi, le nôtre, c'est dans une semaine, mais tous les soirs à 19h, vous pouvez retrouver les infos de Radio Canu. Celui-là sera diffusé demain matin à 8h, rediffusé, et vous pourrez le trouver sur Internet un petit peu plus tard, d'ici une heure ou deux. Voilà, bonsoir, on se quitte avec la Don Buga fanfare.